Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ce matin, certains d'entre nous se sont réunis sur la plage devant l'opéra. Nous faisons ça chaque année depuis une vingtaine d'années pour nous rappeler ce que les disciples ont, la joie qu'ils ont éprouvée le dimanche de Pâques lorsqu'ils ont compris que Jésus était ressuscité. Et ça, ça change tout, ou ça devrait tout changer. Aujourd'hui, nous allons regarder un texte dans le livre des Actes. Je vous invite à vous tourner au chapitre 26 du livre des Actes. C'est page 1261, si vous avez la Bible bleue de l'Église, page 1261. Et avant de lire, on va remettre ce temps au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est bonne nouvelle. Et Seigneur, c'est vrai qu'elle est bonne nouvelle parce que sans toi, les nouvelles seraient mauvaises, Seigneur. Sans son sacrifice à la croix, Seigneur, nous serions toujours dans nos péchés voués à l'éternité, loin de toi en enfer, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment de parler à nos cœurs ce matin par ta parole, qui est la vérité, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, qui l'a inspiré aux auteurs humains, Seigneur, la restitue à nos cœurs humains aussi, Seigneur. On te bénit pour l'évocation de cette résurrection et tout ce qu'elle devrait signifier dans nos vies, dans ce chapitre. Je te prie de parler à nos cœurs ce matin, de nous transformer, que ta parole, animée de la puissance de l'Esprit, puisse toucher nos cœurs, vraiment, et nous transformer pour le meilleur. Nous te remettons les autres églises de cette ville, de cette région, de ce pays qui t'adore en esprit et en vérité, qui te célèbre aujourd'hui, qui célèbre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acte 26. C'est intéressant parce que Jésus-Christ avait rencontré l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Il l'avait rencontré de façon spirituelle, mais réelle. Il lui avait parlé et il avait dit plutôt à Ananias, un autre disciple, en parlant de Paul, « Cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. » Paul avait eu des difficultés, il y avait eu des révoltes. Lorsqu'il voyageait, il parlait de Jésus-Christ, du salut en Jésus-Christ. Et généralement, il y avait soit des conversions, soit la révolution. Il y avait des émeutes. C'était un peu les gilets jaunes de l'époque. Et là, il est injustement accusé et il décide de se pourvoir en cassation. Sauf qu'à l'époque, on ne se pourvoyait pas en cassation. Il n'y avait pas de cour de cassation comme aujourd'hui en France. On en appelait à César. Et c'est ce que Paul avait fait. Et au bout de 2 ans d'emprisonnement à Césarée, qui était la résidence des responsables romains de la Judée, il était retourné se faire juger à Jérusalem par les chefs juifs. Et notamment par un gouverneur qui s'appelait Porcius Festus. On dirait un nom du livre d'Astérix. Porcius Festus, en fait, on parle de lui sous le nom de Festus dans notre passage. Et il se trouve que le roi Agrippa, c'était Hérode Agrippa II, qui régnait en fait sur la Judée, était présent à cette réunion. On n'a pas le temps de se replonger dans l'histoire de la famille d'Hérode. Il a commencé avec Hérode le Grand, qui était grand parce que c'était un grand bâtisseur. Il avait restauré le temple de Jérusalem, il avait construit la forteresse de Masada, mais il avait des enfants, ses enfants avaient des femmes qui étaient souvent la concubine d'un autre membre de la famille. C'était un peu une série télé à l'américaine avant la date. C'était beaucoup d'immoralité, mais c'était eux qui se retrouvaient à être les instruments au-dessus de Paul pour décider de sa vie. Et il se trouve qu'en fait, au verset 23 du chapitre précédent, il nous est dit que le lendemain, Agrippa, donc c'était Hérode Agrippa II, et Bérénice, c'était sa femme, qui est en fait devenue la concubine de beaucoup de monde, et notamment de Titus. Titus, c'était d'abord le chef romain qui a détruit Jérusalem en l'an 70, sous l'empereur Vespasien, avant de devenir lui-même empereur. Donc tout ce beau monde était là, et ils assistent au procès de Paul, qui va défendre sa foi, et qui va nous parler de la résurrection de Jésus-Christ, et qui va nous dire ce que ça devrait faire dans nos vies, le fait que Jésus-Christ soit ressuscité. On raconte l'histoire d'un spécialiste de chirurgie de cancer du poumon, qui un beau jour a regardé une radio de ses poumons et a compris qu'en fait dans quelques mois il serait mort. Pourquoi ? Parce que cet homme qui soignait, qui essayait d'éviter le poumon, les cancers du poumon par la cigarette, lui-même était un fumeur, invétéré. Et lui, il se pensait peut-être au-dessus des choses, mais toujours est-il qu'il avait une grande connaissance de ce qui se passait avec la cigarette qu'il fumait à tout bout de champ et avec ses poumons. Mais cette connaissance ne lui a servi à rien parce qu'effectivement, il est mort 4 mois plus tard. Et cette connaissance, si elle n'est pas mise en pratique, elle ne sert à rien. On sait tous qu'il y a des nourritures qui ne sont pas bonnes pour nous, pour notre santé, mais qui sont tellement bonnes pour nos papilles. Parlons des chips, parlons du saucisson, tout ce qu'on mange le jeudi soir à l'interruption de notre étude biblique, je sais que ça vous fait revenir. Je plaisante, bien sûr. Mais on va voir aujourd'hui qu'on peut avoir une connaissance de la résurrection, et cette connaissance ne peut nous servir à rien si on ne la met pas en pratique dans nos vies de la façon dont Dieu veut que nous la mettions en pratique. On va lire, c'est un peu long, mais on va lire le chapitre 26 du livre des Actes. On lit dans la version second 21, celle que vous avez, si vous avez emprunté une Bible bleue. Agrippa, donc le roi, dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Paul tendit la main et plaida sa cause ainsi. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par des Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Paul le demandait à Agrippa, et je vous le demande à vous aujourd'hui. « Comme je me suis comporté dès ma jeunesse, tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem, me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien selon le parti le plus strict de notre religion. Il était un des chefs religieux légalistes que constituait le groupe des pharisiens. Et il ajoute, verset 6, « Et maintenant je suis traduit en justice parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Cette promesse, nos 12 tribus espèrent en obtenir l'accomplissement en rendant nuit et jour avec ardeur un culte à Dieu. Et c'est à cause de cette espérance, roi, que je suis accusé par des Juifs. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts ? Il dit au roi qu'en fait, il vit dans l'espérance de la venue du Messie, de l'arrivée du royaume de Dieu, et il affirme qu'en fait, rien n'est impossible à Dieu et que ce qu'il annonce, la résurrection de Jésus-Christ, en fait, ça n'a rien de si étonnant, si c'est Dieu qui est à l'œuvre. Verset 9, « Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens quand j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Il leur offrait la vie sauve s'ils renonçaient à leur foi en Jésus-Christ en prononçant des blasphèmes, en disant « Oui, Jésus n'est pas ressuscité, Jésus n'est pas Dieu. » Il continue en disant « Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. » Donc il était à la poursuite des chrétiens. Il les persécutait non seulement en Israël, mais il allait même en Syrie, à l'étranger en quelque sorte, pour les attraper et les mettre à mort, ou les faire condamner à mort. Et il fait le récit, c'est la troisième fois en fait qu'il le fait dans la Bible, le récit de sa conversion sur le chemin de Damas. Verset 12, « C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Un verset clé, le verset 18, acte 18, acte 26, 18. « Je t'envoie leur ouvrir les yeux, juifs et non-juifs, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints, avec les convertis. » Et il continue. On peut admirer la façon dont il garde l'attention du roi en le nommant à plusieurs reprises. Verset 19, « C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. » D'autres versions parlent des œuvres dignes de la repentance. « Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière, au peuple juif et aux non-juifs. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Porcius Festus, le gouverneur, lui dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ça n'a pas la tête. Ton grand savoir te fait déraisonner, te fait dire des sornettes, des imbécilités. » Paul lui répond avec beaucoup de politesse, de déférence, « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, » répliqua Paul, « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est au courant de ces faits, le roi Agrippa, et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. » Et puis il pose une question au roi Agrippa. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. » Il ne le laisse pas répondre. Et Agrippa lui dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ?» Paul répondit « Que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je prie que vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. » Il était prisonnier, il était couvert de chaînes, mais il avait la vie éternelle parce qu'il croyait à Jésus et à sa résurrection. Et il dit au roi qu'en fait, son plus grand souhait, sa prière, c'est que le roi vienne au salut et que, bien sûr, qu'il ne se retrouve pas comme lui avec des chaînes, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Paul lui dit cela, le roi, le gouverneur, Agrippa, Festus, Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et se retirèrent. Ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être lâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. » Comme pour dire, c'est dommage, s'il ne s'était pas pourvu en cassation, on ne pouvait le libérer aujourd'hui. Un passage intéressant qui nous montre comment Paul défendait sa foi, mais ce qu'on sent, c'est avant tout qu'il avait un fardeau sur le cœur. Et ça devrait être le fardeau de chaque chrétien. Si nous sommes sauvés, si nous croyons vraiment en Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, nous devons avoir dans le cœur de la compassion pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est ça qui doit nous animer. On ne doit pas être content d'être dans un club. On doit réaliser que c'est parce que d'autres ont prié pour nous, que d'autres ont œuvré avant nous, que nous sommes venus à la connaissance du salut en Jésus-Christ et que nous aussi, nous devrions avoir le même cœur pour tous ceux qui nous entourent, que ce soit nos familles non sauvées, nos collègues, nos voisins, nos amis, les personnes que nous rencontrons dans la rue. Ça doit être le cœur de chaque chrétien. Et on pourrait intituler cette réflexion « Jésus est ressuscité, ça change quoi ?» Encore une fois, il y a beaucoup de chrétiens qui disent croire en Christ, être sauvés, et peut-être le sont-ils, mais aller voir vivre, on ne voit pas beaucoup de différence avec ceux qui ne connaissent pas le Christ. On dit aujourd'hui qu'il y a la même proportion d'immoralité chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. On n'a pas trop de statistiques en France parce que les Français n'ont pas beaucoup de chrétiens et donc les instituts de sondage ne dépensent pas de l'argent à savoir comment ils se comportent. J'ai peur que ce soit un peu pareil. Mais aux États-Unis, ils disent que la moitié des chrétiens regardent les mêmes spectacles, les mêmes séries de télé que les non-chrétiens, les mêmes films qui font l'apologie de la violence, de la sexualité immorale. On dit que les chrétiens voient autant de pornographie que les non-chrétiens, qu'ils s'engagent dans des immoralités sexuelles, que le taux de divorce parmi les chrétiens n'est pas meilleur que chez les non-chrétiens. Et on peut se dire que si Paul avait ces statistiques, il nous dirait « Mais la résurrection de Jésus, ça ne change rien pour vous ?» En d'autres termes, Jésus est ressuscité, ça change quoi ? Comment est-ce que ça devrait changer nos vies ? On voit que Paul, dans sa défense, fait deux points principaux. D'abord, le fait que la résurrection corporelle de Jésus-Christ, c'est un fait authentique. Et deuxièmement, que la seule réponse raisonnable à cette nouvelle incroyable, que Jésus est ressuscité physiquement d'entre les morts, ça devrait être de nous repentir de nos péchés et de nous tourner vers Dieu pour marcher avec lui. Paul parle de la résurrection. Il nous dit qu'il a rencontré le Seigneur Jésus. Il l'a entendu. Mais il a un auditoire qui est plutôt hostile à ce qu'il a déclaré. Donc, au lieu de dire « Jésus est ressuscité des morts, que vous le vouliez ou non », il va parler de la résurrection comme d'un fait évident. C'est souvent une bonne façon, lorsqu'on parle de Dieu, de Jésus, de la résurrection aux personnes qui nous entourent, c'est de considérer ces choses comme évidentes. Lorsque la Bible commence, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a pas toute une dissertation philosophique pour savoir qu'il est possible que Dieu existe, qu'on peut, par la philosophie, par la psychologie, arriver à affirmer l'existence de Dieu. Non, au commencement, Dieu. Et c'est intéressant, on aime bien, on est plusieurs à faire de l'évangélisation dans la rue, et lorsqu'on parle aux gens, on leur demande s'ils croient en Dieu, ils disent « Ah non, moi je suis athée ». Puis on leur demande « Est-ce qu'il vous arrive de prier ?»« Oui, ça m'arrive ». Et en fait, il y a beaucoup d'inconsistance dans la logique des gens en considérant les choses de Dieu. Et si vous leur donnez la chance de s'échapper en disant « Non, ça ne m'intéresse pas, je suis athée », on se dit que dans ces cas-là, on dit « Mais supposons que vous ayez des amis qui ont la foi, qu'est-ce que vous pensez qu'ils croient sur Dieu ?» Et là, ils nous donnent ce qu'ils pensent sur Dieu sans dire que c'est ce qu'ils pensent eux-mêmes, etc. Alors, ce n'est pas pour les tromper, c'est pour la bonne cause. C'est pour leur parler de la réalité de Dieu, d'un Dieu qui les aime, d'un Dieu qui est mort sur la croix et qui est ressuscité et qui est vivant pour l'éternité. Et donc, il dit qu'il attendait cette promesse. Et il fait allusion à son passé à Jérusalem. Il dit « Tous ceux qui me connaissent savent que j'étais quelqu'un qui attendait la venue du Messie. Je pensais simplement que le Messie, ce n'était pas Jésus. Et c'est pour ça que je persécutais ces hommes et ces femmes. » Mais cette espérance du retour de Dieu sur terre, cette espérance du royaume de Dieu qui arrive sur terre, c'est l'espérance que tout le peuple juif attend. Et il dit ce qui est terrible, c'est justement parce que j'ai cette espérance que certains juifs, les pharisiens notamment, les chefs religieux, l'accusent et veulent sa mort. Et puis, il leur dit, il donne quatre raisons de croire à la résurrection. La première, c'est que Dieu est impliqué. Et il dit, pourquoi vous semble-t-il donc incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Si Dieu est impliqué, pourquoi on ne devrait pas croire à la résurrection des morts ? Il y avait des sectes religieuses qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, les Sadducéens notamment. Ils voulaient dire que c'était impossible. Et si vous croyez à la parole de Dieu, et au Dieu de la Bible, et ces chefs religieux croyaient à la parole de Dieu, nécessairement vous devez croire qu'il a la puissance de ressusciter les morts. Pourquoi ? Parce que il est tout puissant, c'est lui qui a créé l'homme. S'il a créé l'homme, pourquoi est-ce qu'il serait incapable de le ressusciter ? Si vous avez une voiture qui est en panne, vous l'emmenez chez le fabricant ou le concessionnaire du fabricant et vous comptez bien qu'il ait la puissance de réparer la voiture. Et quelque part, si Dieu a créé toutes choses, si par la parole il a amené les choses à exister, on doit reconnaître qu'il a la puissance de ressusciter les morts. Amen. Deuxième point pour croire à la résurrection, c'est qu'il y a eu des témoins oculaires. On est dans l'étude du premier épître de Jean le jeudi soir, et on a dit que Jean, l'évangéliste, dit à ses lecteurs et à ses auditeurs qu'il a vu, qu'il a touché de ses yeux Jésus-Christ. Et il y a une puissance formidable, fantastique, dans ce que dit un témoin oculaire. On doit recouper, parce qu'on peut avoir vu les choses, mais n'a pas avoir compris ce qui était derrière ces choses. Mais Paul, lui, va parler d'avoir rencontré Jésus-Christ vivant. Il l'a vu. Les autres ne l'ont pas vu, mais ils ont entendu du bruit. Et il a écouté la voix de Jésus. Jésus lui a dit, je suis. C'est intéressant, il a été secoué. Et tout de suite, il a dit, Seigneur, qui es-tu ? Parce qu'il savait que c'était une puissance divine qui intervenait. Et Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus persécutait les chrétiens, et ça, Jésus le considérait comme une attaque personnelle. Ça doit nous rassurer, ça doit vous rassurer lorsqu'on se moque de vous, lorsqu'on peut vous persécuter. On est relativement épargné en Europe. On a des amis qui viennent de pays où la persécution est une réalité terrible, qui sont même présents parmi nous. Mais il y a cette puissance du témoin oculaire. Il a vu Jésus. Et dans 1 Corinthiens 15, le même apôtre Paul va nous dire que le même Seigneur ressuscité, Seigneur Jésus, est apparu à Pierre, aux autres apôtres, et à plus de 500 personnes qui à l'époque étaient encore vivantes et auraient pu dire « Non, c'est pas vrai, on n'a jamais vu ça ». Et on peut penser qu'une seule personne puisse être sous l'effet d'hallucinations, sous l'effet de drogue, d'alcool, et voit des choses qui n'existent pas. On peut penser qu'il y en a peut-être deux qui ont pris les mêmes drogues et qui se racontent des histoires. Mais là, il s'agit de 500 personnes dont tous les rapports nous montrent qu'en fait, c'était des personnes saines d'esprit, c'était des personnes qui n'étaient pas folles, c'était des personnes plus que raisonnables, dont souvent la vie était exemplaire au service des autres. Et la probabilité que ce soit vraiment un hasard que Jésus soit apparu, vivant, ça disparaît sous les phénomènes des lois de probabilité. C'est impossible que Jésus soit apparu à tant de gens si ça n'était pas vrai. Et puis, il y a aussi le caractère de ces témoins. Encore une fois, c'était des personnes qui montrent que même leurs ennemis disaient qu'ils devaient reconnaître qu'ils vivaient de façon exemplaire. Et puis, il y a le témoignage des disciples. On utilise souvent ça comme un des arguments les plus forts. Vous vous souvenez que lorsque Jésus a été attrapé, qu'on l'a conduit sur la croix, les disciples, par peur de subir le même traitement, ont disparu. Heureusement, il y avait quelques femmes qui étaient fidèles à Jésus jusqu'à la fin, qui l'ont assisté lors de sa crucifixion. Il y avait l'apôtre Jean qui était là, qui Jésus a dit à Marie que c'était son fils, qu'elle pouvait, que c'était pour Jean, c'était sa mère, qu'il prenne soin d'elle. Mais ses disciples qui se cachaient par peur d'être attrapés, il s'est passé quelque chose de remarquable, un événement. Jésus leur est apparu. Et ces mêmes hommes qui étaient morts de trouille sont allés annoncer l'évangile au péril de leur vie. Tous sont morts de mort violente ou décès. Jean, l'apôtre, lui, n'est pas mort, mais on a essayé de le faire bouillir dans de l'huile bouillante. Sur l'île de Patmos, il a pu être exilé. On l'a exilé ensuite sur l'île de Patmos. Et c'est là que le Seigneur lui a donné la vision de l'Apocalypse que nous avons dans nos Bibles pour nous montrer ce qui va se passer dans la fin des temps. La seule chose qui explique que ces hommes qui étaient persécutés, qui étaient morts de trouille, sont allés annoncer au péril de leur vie la résurrection de Jésus-Christ, c'était la preuve que c'était un fait réel. Si c'est eux qui avaient imaginé ce stratagème, on dit des fois que le corps avait disparu le dimanche matin parce qu'il avait été enlevé par soit des amis, donc les disciples, qui l'auraient caché pour dire « on va dire qu'il est ressuscité, on va commencer une église, après ils vont construire des cathédrales, ça va être formidable, on va avoir un bon business ». Non, ils n'ont pas fait ça, ils ont été annoncés l'évangile au péril de leur vie. Soit c'était des ennemis qui ont enlevé le corps de Jésus pour dire que non, il n'est pas... Et puis dès que les apôtres ont commencé à déclarer qu'il avait été ressuscité, ils auraient été à la morgue ou ils auraient été retrouvé le cadavre de Jésus-Christ, ils auraient monté que Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Ils auraient tué la foi chrétienne dans l'œuf de Pâques. Ils n'ont pas pu. Mauvais jeu de mots. Cette certitude, c'est quelque chose lorsque il y a d'autres événements, d'autres éléments, des témoignages par des personnes qui n'étaient pas chrétiennes, qui disent que les chrétiens étaient animés par cette foi, que Jésus-Christ était ressuscité. C'est vraiment le fait d'avoir eu des témoins. Le troisième point qui prouve la résurrection, et j'en ai déjà parlé, c'est la façon dont les témoins ont eu leur vie transformée. Leur vie transformée à l'époque pour les témoins oculaires, mais la vie de tous les chrétiens de l'histoire de l'humanité ont vu leur vie transformée. Aujourd'hui encore, on voit des hommes qui acceptent de mourir ou d'être persécutés, de voir leurs enfants maltraités, parce que ils ont vu Christ vivant, pas avec les yeux, mais avec leur cœur. Et puis, le quatrième point, c'est que c'est l'accomplissement de beaucoup de prophéties. Il leur dit, versets 22 et 23, en fait, « Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. » C'est intéressant de réaliser que, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 15, il leur dit, je vous rappelle, frères et sœurs, 1 Corinthiens 15, verset 1, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Et il dit, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. C'est-à-dire conformément aux prophéties que l'on trouve dans les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, c'était le nom grec de Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Mais c'est cette conformité aux Écritures. La résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas une idée qui est arrivée comme ça sur le tard. C'était annoncé de toute éternité. Jésus a créé l'homme, Dieu a créé l'homme. Jésus était dans la divinité créatrice avec le Saint-Esprit. Et dès le départ, on savait qu'il y aurait un sauveur. Dès le péché d'Adam et Ève, dans la Genèse 3, il était dit, c'est Dieu qui parle au serpent qui était Satan, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Autrement dit, là il parle, c'est une annonce prophétique de Jésus-Christ, le fils de la femme, la descendance de la femme, qui allait écraser la tête de Satan, même si Satan allait blesser le talon de Jésus. La croix, c'est juste une blessure au talon, mais la résurrection, c'est Jésus qui écrase Satan, la tête de Satan. Ça, c'est pour dire que ce n'est pas une invention récente, c'était là depuis toute éternité. On peut penser que dans leur omniscience, le Père, le Fils et le Saint-Esprit savaient qu'il y aurait besoin que le Fils de Dieu vienne mourir pour nos péchés. Et donc, Paul veut faire comprendre à ces rois et ces gouverneurs et les autres, et on peut imaginer qu'il y avait beaucoup de monde qui écoutait cette défense, il veut leur prouver que la résurrection corporelle de Jésus-Christ, c'est un fait historique. Et tout à l'heure, Tonio le disait dans sa prière, et Paul le disait, si la résurrection n'a pas eu lieu, alors nous, les chrétiens, nous sommes des hommes les plus malheureux de tous. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que sous l'illusion que Dieu est puissant et qu'il a ressuscité son Fils, que le sacrifice de Jésus-Christ a été accepté, ce que prouve la résurrection, en fait, nous serions toujours dans nos péchés. Et au lieu de continuer à pécher allègrement le dimanche, pourquoi venir se lever de bon matin et venir entendre la parole de Dieu, participer à la communion fraternelle en la présence de Jésus-Christ, s'il n'est pas là. Et ça, c'est vital. Comprenez que Jésus-Christ est vivant. Et on a tous été affectés par le terrible incendie de Notre-Dame. Et on peut analyser les raisons en faisant un peu de psychologie de bazar, en disant que on a tous besoin de permanence dans un monde qui change et que quelque part, ce bâtiment qui était là depuis plus de 800 ans, c'était quelque chose qui nous accompagnait dans nos vies, dans nos morts, celles de nos ancêtres, et peut-être. Mais ce qui m'a plu davantage, c'est le fait qu'en fait, lorsque les gens sont émus, on peut penser qu'en fait, c'est parce qu'ils ont soif de transcendance. Même s'ils ne le réalisent pas, s'ils disent qu'ils sont athées, ce qu'ils ne sont pas vraiment, ils ont une soif de Dieu. Dieu a mis dans nos cœurs le sentiment de l'éternité, Ecclésiaste 3, 4. Et ce qui m'a plu encore davantage, c'est que des responsables catholiques ont dit une partie de l'Église a brûlé, l'Église est fichue pour au moins 5 ans. Si ce n'est plus, mais Jésus, lui, il est toujours ressuscité. Jésus n'est pas affecté. Et on peut se réjouir avec tous ces catholiques qui célèbrent Pâques et la résurrection de Jésus-Christ. Il est vraiment ressuscité. Et on se moque de le célébrer dans un ancien hangar ou dans une cathédrale. Ce qui compte, c'est qu'il soit dans nos cœurs. C'est intéressant, on parle de peut-être une des causes de l'incendie, c'était peut-être la soudure au chalumeau des plaques de plomb au-dessus de la charpente. Et on dit qu'en fait, ça peut commencer un feu qui consume le bois sans flamme. Et je dis amen à ça parce qu'ici même, il y a quelques années, on a eu un feu comme ça, qui aurait pu emporter cette magnifique cathédrale. On aurait eu des articles dans CBN et toutes les télévisions du monde entier seraient venues, j'en doute. Mais on avait un gosse qui avait tourné le chauffage sous un chauffage électrique. Et dessus, il y avait une plaque de comptoir en matériaux agglomérés. On a eu un dégât des eaux quelques jours plus tard. Je suis venu pour faire le constat des dégâts des eaux et j'ai senti une drôle d'odeur. Et quand je suis rentré, en fait, il y avait du bois qui brûlait sans flamme, qui était prêt à s'enflammer et à détruire Notre-Dame de Nice, de Calvary-Chapelle. Mais tout ça pour dire, la résurrection, c'est un fait absolu. Vous pouvez mettre votre foi, Jésus est ressuscité. Et ce que nous dit Paul, c'est que ça doit tout changer dans nos vies. Il nous dit, acte 26, verset 26, pardon, c'est 23, le verset 23. Le Messie souffrirait, il serait le premier à ressusciter, il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Il nous dit que, verset 20, que l'on doit se repentir. J'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. En fait, le texte original, c'est, il parle de repentance pour dire changement d'attitude. La repentance, c'est réaliser qu'on fait fausse route et changer de compréhension, réaliser cela intellectuellement et physiquement, matériellement, de façon pratique, changer de voie. C'est un peu comme si je décide que je vais aller à Menton et que je me retrouve sur l'autoroute et je vois, après Nice, je vois Antibes. Je fais fausse route si je veux aller à Menton. Je peux aller à Cannes, c'est très bien si je passe par Antibes. Mais si je veux vraiment aller à Menton, il faut que je sorte de l'autoroute, que je fasse demi-tour pour aller dans la bonne direction. On ne va pas dire que Menton c'est Dieu et qu'Antibes c'est l'enfer, mais si, surtout pour les Antibois. Mais l'idée, c'est que si on décide d'aller vers Dieu, il faut changer de direction. Il faut cesser de faire ce qui nous a éloignés de lui. Et il nous dit quatre choses sur la repentance. C'est un changement de compréhension. On passe des ténèbres à la lumière, verset 18. Dieu, lorsqu'il nous touche, il nous montre sa lumière. On comprend ce qui est bon, que ce qui est beau. Et une deuxième chose, c'est que ça, la repentance, c'est un changement de patron. On voit souvent des restaurants qui n'ont pas un très grand succès. Et puis, un jour, on passe devant le restaurant, il y a marqué « Nouvelle direction ». Avec l'implication que la nouvelle direction, c'est un super cuistot qui va vous faire un repas fantastique, vous devriez l'essayer. Nous, on a un changement de direction, de dirigeant. On est passé de Satan à Dieu. C'est ce qu'il dit là aussi. C'est nous sommes passés des ténèbres à la lumière, mais de la puissance de Satan à Dieu. On dit des fois que tous les hommes sont des enfants de Dieu. C'est faux. C'est vrai dans le sens où c'est Dieu qui a créé la race humaine, c'est Dieu qui a pensé qui a eu l'intelligence, la puissance de mettre en route la race humaine, les cellules, les reproductions, les phénomènes de défense immunitaire, la reproduction, l'alimentation, toutes ces choses-là. Mais en fait, pour devenir vraiment des enfants de Dieu, il faut venir à Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné la puissance de devenir des enfants de Dieu. Ce qui veut dire que si on n'est pas des enfants de Jésus, si on n'est pas vraiment des enfants de Dieu, c'est qu'on est sous la domination de Satan, son ennemi. C'est le chanteur Bob Dylan qui l'annonçait dans les années 70. « You got to serve somebody. » Vous allez servir quelqu'un. Soit vous servirez Satan, soit vous servirez Dieu. Et c'est un peu offensant pour ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ne sont pas encore venus à lui, de penser qu'ils servent Satan. Mais c'est pas moi qui prononce ces paroles sacrilèges, c'est la Bible qui déclare cela. Et quelque part, c'est vrai que si on n'agit pas pour Dieu, notre athéisme, notre indifférence, la façon dont on vit sans se préoccuper de ce qu'il veut pour nous, de ses meilleurs plans pour nous, ça revient à faire le jeu de l'ennemi de Dieu qui veut détourner et se faire adorer par l'humanité. Et aujourd'hui, le roi de ce monde, c'est Satan. C'est ce que dit Jésus lui-même, il dit le prince de ce monde. Mais c'est un temps d'usurpation du rôle de Dieu. Et Dieu va revenir, c'est ce qu'annonce la parole aussi, il va remettre les pendules à l'heure, il va reprendre possession de son royaume. La repentance, ça implique un changement de relation. Au lieu d'être condamné par Dieu, on est pardonné par Dieu. Et on est accepté comme ses enfants. Verset 18, il dit « Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage dans les saints. » S'il y a vraiment ce changement plus profond de nous-mêmes, il va y avoir toutes ces choses, au lieu d'être condamné, on est pardonné et on est accepté comme des héritiers. Et puis, le dernier point, et c'est là que je pense Dieu veut nous interpeller, la repentance va impliquer un changement de comportement. On va passer des péchés à des œuvres dignes de la repentance, à des œuvres, comme il le dit, ça c'est 26-20, on doit adopter une manière d'agir qui confirme nos changements d'attitude. Et donc, notre vie, elle doit être transformée. Au lieu de vivre pour le péché, on n'est pas parfait quand on vient à Christ, de ce côté de l'éternité, mais on ne doit pas vivre de façon permanente dans le péché, en pensant toujours à nous-mêmes, en pensant à satisfaire tous nos égoïstes, nos besoins égoïstes, à nous moquer de ceux qui nous entourent. Nous devons nous repentir, et j'aime bien cette expression des œuvres dignes de la repentance. On peut se demander des fois, est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est une œuvre digne de la repentance? Ou est-ce que c'est du péché qui me sépare momentanément de Dieu jusqu'à ce que je lui demande pardon de nouveau? Et ça, je laisse l'Esprit Saint vous montrer tout ce qui dans votre vie n'est pas œuvre digne de la repentance. On a célébré ce matin la résurrection de Jésus-Christ. On a lu dans l'évangile de Marc 16 le fait que Jésus avait déjà ouvert le tombeau, les femmes avaient des problèmes, Dieu avait déjà pris soin de ces problèmes. Les femmes, lorsqu'elles ont vu que Jésus était ressuscité, elles ne sont pas inscrites dans une université pour apprendre l'hébreu, le grec ancien, faire des études théologiques poussées avant de dire à leur entourage ce qu'elles savaient de Jésus. On venait pour l'embaumer. Il est ressuscité. Il est plus dans le tombeau. Nous aussi, nous pouvons annoncer autour de nous que Jésus-Christ est ressuscité. Et la meilleure preuve qu'il est ressuscité, ça va être que nous avons des vies transformées. Si notre vie n'a pas changé, si nous continuons à divorcer au même taux que les non-croyants, à voir la pornographie, à tricher pour les impôts, à n'être motivé que par l'argent, par les plaisirs, par l'égoïsme, alors notre témoignage n'aura pas de poids. Ce ne sont pas des œuvres dignes de la repentance. Votre réponse au fait historique que Jésus est ressuscité, ça doit être la repentance et des œuvres qui en sont dignes. Juste avant de terminer, on voit qu'à la fin, Porcius Festus, dit à Paul, tu es fou, tu dis des sottises. Paul fait remarquer à Agrippa que sans doute il croit au prophète. Et puis, il prie, il dit, je voudrais tellement que vous veniez au salut. Et puis, le verset 30, le roi, le gouverneur Bérénice et ceux qui étaient assis se levèrent et se retirèrent. Rien ne nous dit qu'ils aient accepté la résurrection de Jésus. Il dit, c'est dommage, s'il n'avait pas fait l'imbécile en demandant à voir César, on aurait pu le libérer aujourd'hui même. Et on peut se dire, ah oui, c'est dommage s'il avait... Non, en fait, c'était voulu par Dieu, c'était permis par Dieu, parce qu'on sait en lisant le reste du Nouveau Testament que ça a permis à Paul d'avoir un témoignage devant l'empereur, de convertir des centaines de Romains et d'assurer la survie de l'Église qui est parvenue jusqu'à nous, nous qui vivons à Nice en 2019. Je ne voudrais pas que vous fassiez comme Porcius Festus, ou comme Agrippa, ou comme Bérénice, qui était sa sœur, mais soupçonnée d'avoir une relation incestueuse avec lui, donc pratiquement sa femme. Je veux vous donner l'occasion de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Je vais prier, et pendant que je vais prier, je vais vous donner l'occasion, si vous croyez vraiment que la résurrection est un fait historique, vous devez répondre en acceptant celui qui est ressuscité dans votre cœur, parce qu'il va tout changer dans votre vie. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour cet épisode qui nous rappelle la défense de Paul devant les plus hautes autorités de Judée à l'époque, qui l'ont conduit à aller témoigner auprès de l'empereur même, Seigneur, et de sa cour. Mais Seigneur, voilà, on a rappelé que la résurrection était un fait historique, que des éléments extérieurs, des témoignages de livres, de personnes qui ont écrit des livres qui n'étaient pas chrétiens, et surtout la logique des faits, Seigneur, fait que on sait qu'il s'est passé un événement, et cet événement, tu nous dis que c'est la résurrection de Jésus-Christ, qu'il est apparu à tellement de personnes. Nous avons toutes nos raisons de croire, comme nous croyons à la vie de Napoléon. Des fois, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, mais en lesquelles on croit, Seigneur. Et la résurrection, c'est quelque chose que nous pouvons embrasser avec toute notre vie, Seigneur, pour nous repentir et vivre de façon digne de cette repentance, se tourner vers toi, se détourner du péché. Et si, pendant que nous sommes dans la prière, vous avez le désir de venir à Jésus pour le recevoir comme votre sauveur et vivre à sa suite, je vous demanderai simplement de lever la main pendant que tout le monde a les yeux fermés. Voilà, pour pas que vous soyez gênés. Alléluia. Merci Seigneur. D'autres personnes qui ont peut-être été touchées aussi. Ne faites pas comme ces empereurs et ces rois qui ont ignoré. Merci Seigneur pour cette personne qui veut te recevoir dans son cœur. On te bénit Seigneur, on te loue pour la puissance de ton saint nom, pour ta résurrection, mais surtout pour ton amour qui t'a conduit jusqu'à la croix pour nos péchés Seigneur. Sois béni Seigneur Jésus. Te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.